Papa, non, en 2024, créer un site web n'est plus une galère, c'est même devenu ultra simple, et notamment grâce à des solutions comme Squarespace. Squarespace est la plateforme tout en un pour permettre aux entrepreneurs de se démarquer et réussir en ligne, et ce, quelle que soit la taille de leur activité. Vous allez voir, tout y est. Vous pouvez vendre vos produits physiques ou services en un temps record. Vous avez des centaines de templates de sites web canon dans tous les domaines. Vous pouvez créer vos campagnes email. Vous pouvez même vendre votre propre formation en ligne. Donc, si vous voulez donner à votre business toutes les chances de se développer avec un outil à la fois performant et très simple d'utilisation, eh ben, je ne peux que vous recommander d'aller sur le site squarespace.com. En plus, à l'occasion de ce partenariat, Squarespace vous offre moins 10% sur votre première commande de site web ou de domaine avec le code Pauline. Alors, n'attendez plus et rendez-vous sur squarespace.com, code Pauline. Hello, hello, ici Pauline Agneau et vous êtes sur une nouvelle leçon. Alors aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Camille. Camille qui est un petit peu en train d'être face à un épineux problème. Elle est actuellement dans une belle entreprise, une grande entreprise, et se pose la question d'une reconversion dans une plus petite boîte. En gros, elle se pose une question assez simple, c'est comment postuler dans une start-up ou dans une PME, une plus petite entreprise, lorsqu'on vient vraiment d'un grand groupe et qu'on n'a pas vraiment finalement sur son profil indiqué qu'on est très opérationnel. C'est vrai que c'est une question qui est intéressante parce que très souvent, en tant que petite entreprise, on va se méfier un petit peu des personnes qui viennent des grands groupes, pas parce qu'on ne les aime pas, bien évidemment, mais parce qu'en fait, on se dit, est-ce qu'ils vont vraiment être capables de mettre les mains dans le cambouis? Et du coup, j'ai trouvé que c'était très intéressant de répondre à cette leçon avec Amy, parce que j'ai moi-même été très souvent confrontée à ce problème, de recevoir des candidatures de personnes qui viennent de grands groupes, qui souhaitent tenter une aventure un petit peu plus entrepreneuriale en travaillant dans une PME, mais pour autant qui n'ont pas forcément justement compris à quel point il allait falloir changer de paradigme et être plus opérationnel. Bref, j'espère que j'ai donné de bons conseils à Camille, surtout je lui souhaite tout le meilleur pour la suite, et j'espère également bien évidemment que cette leçon vous sera utile. Mais je ne vous en dis pas plus et laisse place à cette nouvelle leçon. Salut Camille!
Bonjour Pauline!
Je suis ravie de t'accueillir sur cette leçon. Dis-moi Camille, du coup, qu'est-ce qui t'amène ici? Et puis, est-ce que tu peux aussi commencer par te présenter, s'il te plaît?
Oui, alors, merci beaucoup de me recevoir sur cette leçon. En fait, je t'appelle aujourd'hui parce que j'avais une question. Ça fait, en fait, 6 ans que je travaille dans des grands groupes agroalimentaires en marketing, en tant que chef de produit. Quand je suis sortie d'école, j'ai tout de suite cherché à intégrer un grand groupe. En fait, je pensais que c'était là où j'allais le plus apprendre. J'avais une vision plutôt négative, en toute honnêteté, des plus petites boîtes, qui me semblaient un peu systématiquement désorganisées. Je me suis dit, j'apprendrais plus dans un
club. Ça arrive de temps en temps, hein, faut quand même se le dire.
Donc voilà, et en fait, donc je suis une fidèle auditrice du gratin. Et à force de t'écouter, d'écouter des histoires d'amis qui se lancent dans des aventures entrepreneuriales et dans des startups scale-up, je me rends compte qu'il y a des sociétés plus petites, très professionnelles, et où l'on apprend beaucoup. Et en fait, ça me donne envie de me lancer. Donc, je regarde un peu des postes, mais en fait, quand je regarde des postes qui pourraient me correspondre, je remarque que le marketing est souvent, dans les plus petites boîtes, soit l'apanage du CEO, soit ce sont des postes très digitaux, ce qui est un peu moins ma spécialité. Moi, j'ai un profil un peu plus généraliste de chef de produit.
Ouais.
Donc, je me demandais, en fait, avec mon profil plutôt généraliste, grand groupe, comment me vendre auprès de start-up, de plus petites boîtes aussi, en sachant que donc j'ai ce profil très général. Est-ce que mon expérience est suffisante, entre guillemets, ou est-ce qu'il faut que je repasse par une case formation ou que je reprenne des postes plus juniors pour ensuite espérer avoir quelque chose qui ressemble un peu plus à ce que j'ai aujourd'hui, mais dans des plus petites boîtes. Voilà.
Écoute, je trouve ça hyper intéressant comme question et je te remercie de la poser parce que je crois bien que c'est la première fois que j'adresse ce sujet sur une leçon et c'est drôle parce que moi, en tant que dirigeante, j'ai déjà fait quand même pas mal de recrutements maintenant dans ma carrière et notamment comme je gère le pôle marketing de Gemio, entre autres, et bien évidemment, j'ai déjà fait pas mal de recrutements en marketing, donc je pense que je vais pouvoir te donner 2-3 petites astuces. Déjà, là où je pense qu'il faut faire un distinguo, c'est qu'il y a vraiment 2 types de petites boîtes. Il y a des startups tech et puis il y a les autres, on va dire. Et c'est vrai que dans les startups tech, le marketing est très souvent un marketing qui est donc un marketing quasi 100% digital. Donc ce que ça veut dire, c'est que sincèrement, dans ces entreprises-là, t'es globalement assez voué, si tu veux, à avoir mis les mains dans le cambouis de Facebook Ads, de Google Analytics, de tous les outils en fait de marketing un peu plus tech, on va dire, qui sont assez nécessaires parce que bah tu vas chapeauter en fait en général des personnes qui font quasiment que de l'acquisition marketing. Faut quand même que tu te dises que sans être dévalorisante pour des boîtes tech, mais le marketing dans des boîtes tech, c'est quasi exclusivement que de l'acquisition. Donc c'est-à-dire faire venir du trafic de qualité si possible sur un site internet. Et du coup, c'est vrai que si jamais tu as d'autres compétences marketing, par exemple de création de notoriété, de branding, de contenus éditoriaux, ça, ce sont des compétences qui sont en général un petit peu moins valorisées. Je fais des généralités, hein, bien sûr, mais un peu moins valorisées dans des boîtes tech qui sont quand même très héroïstes, donc qui sont très orientées sur du résultat et qui, du coup, vont vouloir chercher des profils effectivement assez digitaux. Donc, du coup, moi, ce que je peux te dire, c'est que si c'est ça qui te plaît et que tu as vraiment envie de devenir une experte en marketing digital, dans ce cas, oui, tu peux essayer de faire des formations. Après, pour être tout à fait honnête, pour être de l'autre côté de la barrière, parce que nous, avec Gémio, on est un peu entre le tech et le non-tech, les formations, c'est bien, mais c'est quand même beaucoup moins concret et actionnable que quand on le fait. Et du coup, moi, typiquement, quand quelqu'un vient me voir et me dit qu'il a fait une formation en marketing digital, bah, en fait, je lui dis pourquoi pas, mais je lui fais faire un test et je vois tout de suite, si tu veux, s'il a déjà effectivement mis les mains dedans. Parce que le problème de la formation, c'est que bah, si ça reste uniquement une formation et que tu ne le fais pas, tu n'apprends pas vraiment. Donc du coup, tout ça pour te dire que si c'est la partie tech qui t'intéresse, ce que je te conseillerais de faire, c'est effectivement bah, d'essayer de trouver un job qui serait un peu un job de transition pour que tu apprennes les bases du marketing digital. Et auquel cas, ce que tu peux essayer de faire, c'est par exemple travailler dans une agence qui sont en général des très bonnes formations pour faire ça. Mais si jamais en fait t'es juste intéressé à l'idée de travailler dans une plus petite boîte et de faire du marketing avec une dimension digitale mais sans que ça soit forcément tu vois la chose principale que tu vas faire, il y a plein de boîtes qui proposent ça, Gémio par exemple, mais pas que, il y a plein de boîtes si tu veux qui sont entre le digital et le non-digital et qui ont bien besoin de profils, je suis sûre, comme les tiens, qui ont l'expérience de la structure mais qui pourront aussi apporter des choses plus opérationnel que peut-être ce que tu faisais quand tu étais dans ton grand groupe. Et du coup, moi, j'ai aucun problème à recruter des personnes qui sont issues de grosses boîtes, pour te donner un exemple en tant que recruteur. La seule chose, c'est qu'il faut que tu saches que quand tu essayes de rentrer dans une petite entreprise d'une cinquantaine de personnes, une trentaine de personnes, voire moins, le dirigeant a en général un peu de méfiance vis-à-vis de la personne qui vient d'un grand groupe. Pas parce qu'elle se dit que cette personne n'est pas compétente ou est stupide ou quoi que ce soit, mais juste parce qu'en fait, quand tu es dans un grand groupe, t'as tellement de moyens malgré tout, il y a tellement d'outils et les tâches sont tellement segmentées entre différentes personnes que finalement, ben, t'es un peu moins quand même clé en main. En général, du coup, tu vas être très spécialisé et très structuré sur un pôle, mais quand t'es dans une petite boîte, ben, il faut quand même plus de polyvalence et puis plus un aspect de terrain qui fait que ben, tu vas pas demander à ton supérieur ce qu'il faut faire dans tel ou tel cas, tu vas le faire toi-même, tu vois ce que je veux dire ?
Exactement, oui. Il y a cet aspect-là,
ouais. Ouais, donc du coup, en fait, ça, pour toi, je pense que ça peut être très intéressant. C'est un peu un changement de paradigme, hein. Moi, je te le dis, on a déjà recruté plusieurs fois des personnes chez Gémio qui étaient issues de grands groupes. Parfois, ça s'est très bien passé. Parfois, ça s'est moins bien passé, pour être honnête. Et ça s'est moins bien passé, en général, parce que ces personnes se sont rendues compte au bout d'un moment que finalement, t'as quand même beaucoup moins de confort quand on est dans une petite boîte. Parce que, ben, une fois de plus, hein, on te demande, ces personnes autour de toi va te dire quoi faire. Personne va te dire, en gros, s'il faut aller à droite ou à gauche, tu dois le tester. Et il y a une dimension de plus forte autonomie, mais donc aussi de plus forte prise de risque, qui n'est pas facile et qui n'est pas faite pour tout le monde. Mais si tu sais que tu aimes bien mettre les mains dedans et que tu rechignes pas à la tâche justement de apprendre à faire des pubs Facebook en allant sur Facebook, en te créant un compte, en essayant de comprendre, en allant regarder des tutos sur YouTube, là, si tu as ce type de mentalité, je pense que la petite entreprise va te plaire. Si à l'inverse, tu aimes bien qu'on t'explique beaucoup les choses et qu'on te guide, et ce qui est tout à fait légitime, hein, bien sûr, honnêtement, la petite boîte, et je te le dis aussi pour toi, pour pas que tu perds du temps, et tu vois, c'est quand même des périodes douloureuses quand ça se passe pas bien, ben, sache que la petite boîte risque d'être pas très adaptée. Nous, encore chez Gémio, on est assez structuré, on a une soixantaine de personnes, donc maintenant, on a vraiment des process d'onboarding et on forme beaucoup les gens. Mais je me rappelle de Gémio il y a 5 ans, franchement, quand t'as quelqu'un qui débarquait, on lui filait les clés, on lui faisait des feedbacks, mais globalement, il devait apprendre un peu son métier tout seul, tu vois. Et du coup, il faut quand même avoir en tête que c'est beaucoup plus entrepreneurial de travailler dans une petite boîte parce que bah, tu vas sincèrement devoir un peu inventer la roue tout seul. Ce qui est rarement le cas dans un grand groupe où en fait il y a déjà des process existants et on te demande, et je le dis pas de manière dévalorisante, plus d'exécuter et de perfectionner des process existants. Alors que dans une petite boîte, tu dois les inventer. Donc tu vois, c'est franchement un changement de paradigme qui est assez important. Et du coup, moi je te demande, est-ce que tu penses que toi c'est quelque chose qui te plairait pour ta personnalité ou en fait tu commences à dire, bon bah la petite boîte m'intéresse parce qu'il y a plein d'aspects positifs, il y a peut-être plus d'énergie et tout, mais c'est pas qu'un avantage, tu vois, de devoir inventer des nouveaux process.
Eh ben, en fait, moi, ce que j'aime bien dans ce que tu décris, c'est le côté exercer sa curiosité, parce qu'en fait, et je pense que c'est quelque chose dans lequel je me retrouve, quand on doit soi-même être à l'origine des process, entre guillemets, même si ça ne va pas être que des process, bah, du coup, on doit exercer sa curiosité en permanence, et ça, c'est aussi quelque chose que je recherche. Ça permet aussi de d'étendre un peu le champ des possibles, peut-être d'aller vers d'autres métiers sans s'en rendre compte entre guillemets. Là, avec ouais. Peut-être c'est l'avantage et l'inconvénient, je pense, des plus petites entreprises, les fiches de poste sont parfois plus variables. Mais c'est quelque chose qui me plaît et donc effectivement, ça c'est difficile de le prouver en entretien. Enfin, on peut donner des exemples de ce qu'on a fait voilà dans notre propre poste. Mais c'est vrai que ça reste comme tu dis, ça reste plus limité dans des grosses boîtes où on a moins cette possibilité là. Donc d'avoir montré.
Bah dans ce cas, si ça te plaît, ce qui était, je pense, la première étape en fait, c'est de le valider et de s'assurer que c'est bien le cas. Parce qu'une fois de plus, il y a des personnes parfois qui se trompent de combat. Et oui, t'as une ambiance plus familiale dans une petite boîte, mais comme d'habitude dans la vie, il y a des compromis. Et l'un des compromis, c'est que sincèrement, t'es un peu plus laissé seul. On va moins te guider. Enfin, c'est pas plus simple, si tu veux. C'est même plutôt, je pense, un petit peu plus compliqué. Donc du coup, une fois qu'on sait que ça t'intéresse vraiment, l'étape d'après, c'est comme tu disais, comment convaincre un dirigeant ou un marketeur ou la personne qui va te recruter de non seulement ta bonne volonté, parce que ça, je pense qu'il aura pas de doute et que c'est la réalité, mais du fait que t'en es capable. Parce qu'en fait, c'est pas parce que tu le dis et que tu le penses sincèrement et que t'as envie que c'est la vérité, tu vois. Il faut aussi, à un moment donné, être lucide avec soi-même. Et du coup, je pense que pour qu'on s'assure, que tu t'assures toi-même que t'en es capable et que t'arrives à le prouver, le fait de le dire n'est pas suffisant. Je te le dis parce que, en fait, tous les candidats le disent. Enfin, moi-même, je suis très souvent en face de personnes qui viennent de très grands groupes et qui me disent, moi, je veux bosser dans une petite boîte parce que je veux pas de politique et que je veux voir les effets de mes actions. Et je suis sûre qu'ils le pensent vraiment. Mais il y a une différence entre le fait de le penser et d'être capable de le faire. Et pour être capable de le faire, pour montrer que t'es capable de le faire, il faut le prouver, comme tu le disais. Et pour le prouver, ça veut dire qu'il faut soit que t'aies des exemples de cas où t'as fait des choses très concrètes, mais quand je dis très concrètes, tu vois, c'est vraiment t'es pas passé par une agence extérieure, enfin, t'as fait quelque chose que t'as build up toi-même, t'as mis les mains dedans, t'as créé un petit site internet, t'as créé le compte Instagram de ton podcast, je dis n'importe quoi, t'as créé quelque chose de A à Z sans argent. Ça, c'est une preuve qui est énorme pour un entrepreneur, parce qu'en fait, une fois de plus, je te dis, il va toujours avoir un doute sur le fait que si tu dis que tu as créé un super projet dans le cadre de ta grande boîte, en fait, s'il y a 15 personnes qui bossent dessus et que tu as des moyens quasi illimités, c'est très bien et ça prouve ta capacité à bien organiser les choses, mais ça ne prouve pas le fait que tu es capable, si tu veux, de mettre les mains dans le cambouis. Je sais pas si tu vois la nuance.
Oui.
Et donc il faut que tu arrives à trouver des exemples concrets de preuves, et sinon s'il n'y a pas d'exemple concret de preuve actuellement, que tu crées une preuve, c'est-à-dire que tu crées ton petit projet, et ça n'a pas besoin d'être un truc d'une très grande ampleur, mais tu vois, moi j'adorerais qu'on vienne me voir en entretien si jamais quelqu'un postulait à un poste chez Gemio, en me disant, sans que j'ai rien demandé, j'ai recréé un compte Instagram de Gemio, j'ai repris plein d'images, je dis n'importe quoi, hein, et j'ai vu que vous n'étiez pas sur TikTok et du coup j'ai pris plein d'éléments que j'avais trouvés sur votre compte Instagram et je les ai recréés sur TikTok et voilà à quoi ça ressemble et voilà la ligne éditoriale et voici et voilà. Parce que du coup je me dis que cette personne, si tu veux, elle est pas pipeau, je me dis qu'elle a compris qu'en fait dans une petite entreprise, en fait ce dont on a besoin c'est des gens qui font. C'est pas des gens qui parlent, c'est pas des gens qui organisent, on a besoin de gens qui font. Et donc le fait déjà qu'elle me le montre et qu'elle ait fait quelque chose avant même que je lui ai demandé, va me faire penser que tu vois, cette personne est une doer, c'est une faiseuse, et ça peut m'intéresser. Après ça veut pas dire que je vais pas quand même lui faire passer des entretiens et lui faire plein de tests, mais ça, je pense, enlèvera une grosse partie du doute qu'on peut avoir quand on a un profil effectivement comme le tien, qui est plutôt un profil donc qui est issu d'une grande entreprise, en me disant tournant. En fait, c'est pas parce qu'elle vient d'une grande entreprise que sa mentalité n'est pas la bonne. Et moi, je te donne un exemple. Je sais pas si tu sais, mais moi, j'avais fait des études qui n'ont rien à voir avec mon métier, parce qu'en fait, moi, j'avais fait des études littéraires. J'avais fait Normale Sup, qui est une école pour devenir prof. Et du coup, concrètement, tout ce que j'avais fait pendant toutes mes études, moi, c'est de faire des dissertes. Je faisais des dissertes très, très bien, mais alors je ne faisais que ça. Et du coup, autant te dire que quand j'ai dû trouver mes premiers stages, c'était l'enfer, parce qu'en fait, tout le monde se disait Normale Sup, c'est hyper prestigieux et tout, mais en fait, personne ne voulait m'embaucher. Parce que Normale Sup, ça sert à faire des dissertes, si tu veux, ça sert pas à être concret. Et moi qui voulais bosser dans des petites boîtes, c'était un peu l'enfer, parce que réussir à trouver des gens qui acceptent même de répondre à mon CV, c'était très compliqué. Ils arrêtaient pas de me dire, non mais désolé, mais en fait, vous êtes surqualifié, on ne sait pas ce qu'on va vous faire faire. Enfin, je pense qu'ils avaient un peu peur, tu vois, du fait que je sois un peu une diva. Et honnêtement, je ne pense pas être quelqu'un qui est une diva. Donc, assez rapidement, j'ai compris qu'il fallait que je change mon fusil d'épaule et que plutôt que d'envoyer des lettres de motivation très bien écrites, mais qui finalement ne disaient pas vraiment qu'au fond, je n'étais pas juste une normalienne, mais qu'en fait, j'étais assez entrepreneur dans l'âme, et ben justement, j'ai fait des choses. Et notamment, je me rappelle que j'ai envoyé des candidatures spontanées à un certain nombre de, à l'époque je voulais travailler dans le milieu du food, en disant très très explicitement, si tu veux, et en cassant le risque, on va dire, de la diva, en disant bah moi, s'il faut sortir des poubelles, s'il faut conduire un camion, s'il faut là j'étais un peu extrême hein, moi, mais j'étais aussi très jeune et je voulais apprendre, s'il faut faire de l'Excel ou s'il faut faire un texte pour la presse, je veux tout faire, je sais tout faire, en tout cas je veux apprendre, et faites-moi confiance, et pour preuve, et je sais pas, j'avais fait une petite présentation, si tu veux, où j'expliquais dans le cadre de cette dans le cadre de cette pâtisserie, en gros un plan commercial, tu vois, et pour un de leurs nouveaux produits. Et du coup, ce que je veux dire par là, c'est que j'avais un peu tué dans l'œuf le risque qui était perçu par mon employeur, qui était que cette personne en fait ne serait pas concrète, c'est-à-dire moi quand je dis cette personne. Et en l'occurrence, ça a fait énormément de bien, si tu as, mes candidatures, parce que avant, sincèrement, personne ne me répondait, ou sinon il me disait on sait pas ce qu'on va vous donner à faire, parce que merci mais les dissertations c'est pas notre cam. Et ensuite, quand j'ai changé mon fusil d'épaule et que j'ai commencé ma lettre en disant j'ai bien conscience que j'ai un profil qui est atypique et que vous allez penser que je sais rien faire à part des dissertes, mais c'est pas qui je suis, c'est pas ma personnalité, et d'ailleurs je vous garantis que moi, si je viens, ce que je veux faire, c'est apprendre, mettre les mains dans le cambouis, et je dis pas ça juste des paroles en l'air, mais s'il faut sortir, donc je donnais des éléments concrets, s'il faut, et je faisais exprès de prendre des choses qui étaient assez terre à terre, s'il faut sortir les poubelles, conduire un camion, je le ferai, et d'ailleurs j'ai fini par le faire dans cette entreprise, et c'était très bien parce que bah ça m'a aussi appris, tu vois, la vraie vie de l'entrepreneur, quoi, parce qu'au final, quand tu crées ta boîte, en général la personne qui finit par sortir les poubelles et conduire le camion, c'est l'entrepreneur, tu vois, c'est pas l'employé. Donc du coup je pense que déjà aussi au niveau de ta lettre de motivation, je suis désolée, c'est peut-être pas très structuré ce que je te raconte, mais au-delà de la preuve, tu peux aussi assumer le fait que tu viens d'un grand groupe et que tu sais que c'est pas quelque chose qui est forcément valorisé dans des petites boîtes, mais dire j'assume que c'est comme ça, je pense que ça m'a appris de la structure, mais sachez qu'au niveau de ma personnalité, c'est pas parce que je viens d'un grand groupe que je suis pas quelqu'un qui aime le terrain, et au contraire, et voilà ce que je serais prête à faire, ou voilà ce que j'ai fait dans ma vie.
Ouais, donc vraiment ça, je pense identifier que les barrières, ouais, en fait, un peu qu'ils auraient par rapport à notre profil, mettre aussi les pieds dans le plat, et même par rapport à soi-même être très clair et se dire en fait comment est-ce que je montre que je peux casser ces barrières et que moi, en fait, je suis comme ça, avec des exemples
concrets. Exactement, en étant très concret, parce que déjà, toi, ça va te permettre de te projeter sur ce que tu accepterais de faire ou pas. Mais une fois de plus, je dis pas qu'il faut que tu sortes des poubelles, mais ce que je veux dire, c'est qu'à un moment donné, c'est aussi une mentalité, tu vois, de vouloir mettre les mains dans le cambouis. Il y a des gens qui adorent ça, il y a des gens, sincèrement, qui n'aiment pas, et c'est pas grave, et chacun est différent. Mais dis-toi que si tu veux bosser dans une assez petite boîte, il vaut mieux que t'aimes ça, parce que ça va te tomber dessus, et que ça, si t'aimes pas, ben autant que tu le saches tout de suite. Donc c'est intéressant que tu te formules aussi ce que t'aimerais faire ou pas. Typiquement, je sais, en marketing, aller faire de la vente. Aller faire de la vente à telle ou telle personne, parler au téléphone à des clients, ça me fait absolument pas peur. Au contraire, je trouve que c'est fondamental que tu le formalises et que tu l'écrives noir sur blanc. Ça, c'est des choses, je pense, qui montreront à la personne en face de toi que t'as mûrement réfléchi ta décision et que c'est pas juste sincèrement, pour le dire un peu crûment, que t'es pas une énième personne qui rêve de travailler dans une boîte plus petite parce que ça a plein d'avantages, que c'est plus, il y a plus de sens, que c'est plus fun, que c'est plus friendly, mais que t'as compris qu'en fait, il y a aussi des compromis à avoir, ou en tout cas que c'est pas tout rose tous les jours, et que si jamais tu travailles dans une petite boîte, bah tu sais aussi que tu vas devoir mettre les mains dedans, mais vraiment, et pas juste le dire, mais le faire.
D'accord. Ouais, très clair. Ça sera, je pense que c'est un bon tips pour moi aussi à le remettre, parce que j'ai tendance à écrire des lettres de motivation un peu comme ce que j'écrivais aussi effectivement dans des grands groupes, en reparlant de ce qui me plaît, de ce que je pourrais apporter, mais en fait aussi ce que je pourrais apporter plus concrètement, quoi. Donc vraiment en mettant les mains.
Dis-toi que surtout, tu sais, dans la vie, moi j'ai fait une formation sur la plateforme de marque, et au final on a tous des plateformes de marque personnelles, donc là je parle à Camille, la marketeuse. Si tu veux émerger au sein d'une candidature où il y a probablement beaucoup, enfin d'un poste où il y a beaucoup de candidats, il faut que tu sois différente. Il faut que tu montres en quoi tu es différente. Et typiquement, quelque chose qui est assez différent, c'est d'avoir un parcours issu d'un grand groupe, donc qui va t'apporter de la structure, mais en même temps, d'y ajouter vraiment des compétences de terrain et de montrer que tu es justement très à l'aise avec les deux, que tu sais tout autant naviguer, tu vois, dans les arcanes d'un grand groupe un petit peu politique, que tu sais structurer des choses, que tu sais mettre en place des process ou en tout cas les suivre, mais d'autre part, que tu sais aussi vraiment mettre les mains dedans. Parce que ça, c'est assez rare comme compétence, tu vois. La réalité, c'est que souvent, c'est un peu l'un ou l'autre. Les gens qui sont issus de petites boîtes sont pas très structurés, partent un peu dans tous les sens, adorent mettre les mains dedans, mais ils font un peu que ça. Donc toi, franchement, tu peux avoir une grosse valeur ajoutée à avoir les deux. Et ça, le dire dans ton CV, l'expliquer vraiment clairement, je pense que pour une petite boîte qui recrute, c'est beaucoup plus intéressant que de savoir que t'aimes le marketing, etc. Qui, si je suis un peu cru une fois de plus, est quelque chose que littéralement tous les candidats vont dire, tu vois.
Et tu parlais au début aussi de passer par une agence, un peu avoir un job de transition. Ouais. Qu'est-ce que ça pourrait m'apporter plus spécifiquement, donc vraiment plus des compétences techniques là dans ces cas-là, montrer que je...
Oui. Je pense que ce que ça ferait, mais il faudrait pas que tu y restes trop longtemps, parce que j'espère que les personnes qui travaillent en agence ou qui sont à la tête d'agence ne vont pas mal le prendre, mais je pense que le problème de l'agence, c'est que ça te formate et que du coup ensuite t'as beaucoup de mal à sortir d'un cadre qui t'a été un peu imposé, et donc ensuite quand tu retournes dans une entreprise, les gens qui travaillent en agence ont tendance à plaquer leurs connaissances. Si je prends l'exemple de la dissertation pour faire un parallèle, c'est comme si t'as appris par cœur, si tu veux, tous tes plans de dissertation ou tous les sujets, et du coup tu plaques, si tu veux, sur un sujet un plan que t'as pris. Ça marche rarement, si tu veux. Et du coup, le problème de la personne qui a travaillé en agence pendant trop longtemps, souvent, c'est qu'elle plaque ce qu'elle a appris sur des entreprises qui ont besoin d'avoir un petit peu plus, on va dire, d'intelligence au final. Mais bon, ça c'est un aparté. Mais en revanche, si jamais tu le fais pendant peu de temps, ça peut t'apprendre en fait tout simplement à utiliser les outils, à utiliser Google Analytics, à utiliser Facebook Ads, à savoir utiliser Google Tag Manager, tu vois, tous les outils qui sont du marketing, mais du marketing un petit peu plus technique, ce qu'on appelle souvent du web marketing, ça t'apprendra à les utiliser, à utiliser, tu vois, des outils d'emailing par exemple. Donc franchement, ça peut être intéressant si jamais tu vises une fois de plus plutôt des boîtes qui sont des boîtes, des petites boîtes un peu dans le secteur tech. Je pense que si jamais tu n'es pas forcément tu vois, à cheval sur l'idée d'être dans une boîte très tech, et que tu veux une boîte plus générale, une marque, tu vois, une entreprise, je sais pas, dans le bâtiment, enfin peu importe, à ce moment-là, tu n'as pas besoin nécessairement d'avoir cette expérience très technique du marketing. Tu peux l'apprendre un petit peu sur le tas, mais il faudra aussi que tu mettes les mains dedans et que tu apprennes. Parce que pour le coup, et ça c'est un conseil que je peux donner à tout le monde, en tant que dirigeant et en tant que directrice marketing, parce que je fais directrice générale et marketing en même temps de Gemio, moi, pour moi, il est indispensable que je sache comment on fait une campagne Facebook, parce que sinon je peux pas checker, si tu veux, que mes collaborateurs ils le font comme je l'aimerais, en fait. Et donc avoir la compétence de savoir regarder vraiment au fond des choses, c'est absolument fondamental quand t'es manager, et je pense que c'est le type de poste que tu cherches à avoir. Donc du coup savoir le faire vraiment en mettant les mains dedans, c'est une étape obligée, tu vois. C'est comme je dis souvent, la vente, c'est un passage obligé pour aussi être bon en marketing. Le marketing, c'est au final aussi savoir, tu vois, vendre un produit, savoir bien le mettre en avant. Si tu sais pas déjà le vendre à une personne en face to face, comment veux-tu réussir à le vendre à 150 000 personnes? Tu vois, c'est très compliqué. Donc, je pense que partir de la base et savoir faire les choses soi-même, c'est indispensable. Si tu passes par une agence marketing, donc plutôt, je te dis digital, plutôt un peu orienté tech, ça peut t'apprendre énormément de choses, mais je te conseillerais, et voilà, de pas y rester trop longtemps parce que sinon tu pourras t'enfermer un peu dans des systèmes qui sont assez difficiles à en sortir, parce que quand tu vas rentrer dans une agence, c'est un peu des machines, hein, qui mettent en place des process et c'est très bien, mais du coup à tel point que quand t'en sors au bout de 2 ans, 2, 3 ans, c'est très difficile en fait de sortir des process qui t'ont été inculqués et de commencer à repenser les choses de manière plus adaptée à une entreprise spécifique.
Ouais, c'est marrant parce que justement j'avais rencontré une agence il y a un an qui avait exactement appliqué ce conseil que tu donnes. C'était de elle avait demandé à tous ses employés de créer son propre projet à côté de l'agence, donc un compte Instagram de leur passion ou quoi que ce soit, pour que chacun ait aussi son projet individuel qu'il peut vendre et voir comment ça marche en fait. Donc c'est un conseil qui s'applique.
Bah complètement, tu vois, moi je te donne un exemple personnel. Instagram, avant j'étais nulle dessus, j'étais pas dessus, et puis et quand j'ai commencé à comprendre que c'était important, c'était important dans la vie, parce que quand on fait des affaires aujourd'hui, c'est devenu une vraie carte de visite et c'est quand même un merveilleux levier en fait pour faire de l'acquisition, qu'on soit d'ailleurs en B2B ou en B2C, pareil pour LinkedIn. Bah en fait j'ai commencé à poster des contenus, et si tu veux, c'est en peu de temps des contenus personnels sur mon compte personnel que j'ai aussi appris à bien le faire pour Gemio. Et en fait ce que je veux dire, c'est que finalement c'est assez difficile en tant que chef d'entreprise ou en tant que directeur marketing ou chargé de marketing de commencer à dire ah bah voilà ce qu'il faut faire sur Instagram sur ta boîte si jamais tu l'as jamais fait tu vois concrètement toi-même. Donc en fait moi j'ai énormément je pense apporté à Gemio au niveau d'Instagram parce qu'en fait juste je me suis tellement mis dedans que je sais le faire quoi, tu vois. Et donc c'est pour ça que tout ce que tu peux réussir à faire toi-même à titre perso, franchement, sera utile pour ta carrière en marketing.
Ouais, carrément. C'est un bon conseil.
Bon, bah ça va. Alors, je donne pas que des conseils pourris. Tout va bien. En tout cas, Camille, c'était vraiment intéressant comme question et j'espère que ça va t'aider un petit peu dans ta démarche. Mais vraiment, si on résume, je pense que prouver que tu es quelqu'un qui est vraiment orienté terrain et action via en fait le fait de toi-même faire des choses et montrer à la personne qui va te recruter potentiellement que ce que t'as fait, donc leur montrer ce que t'as fait, et puis aussi je pense dès ta lettre de motivation comme on le disait montrer en fait que c'est pas pipeau que toi t'es à la fois quelqu'un issu d'un grand groupe et que t'aimes le terrain, mais vraiment le prouver et le préempter si tu veux en expliquant que t'as tout à fait conscience qu'il y a peut-être un peu de méfiance vis-à-vis des personnes des grands groupes, mais que c'est d'ailleurs pour ça que t'en pars et que tu sais que toi justement au niveau de la personnalité t'es quelqu'un qui aime mettre les mains dedans. Je pense sincèrement déjà que ça peut donner quand même un vernis vraiment intéressant à tes candidatures qui sera moins lisse si tu veux que si jamais tu fais une énième lettre qui dit que tu fais du marketing depuis 10 ans dans telle et telle boîte et que t'adores ça quoi. Ou là franchement malheureusement ça va pas trop sortir du lot.
Ben, merci beaucoup pour tous ces conseils. C'est vraiment super de t'écouter. Comme quand on t'écoute dans tes podcasts. Et encore mieux d'y répondre.
Et ben voilà. Bah écoute, en tout cas, merci pour tout. Je te souhaite évidemment tous les succès possibles et imaginables dans cette aventure.
Merci.
Et puis tiens-moi au courant, évidemment, de comment ça se passe. Ça me ferait plaisir de savoir si ces conseils ont porté leurs fruits.
Merci beaucoup, Pauline.
À bientôt.
Merci, au revoir.
Et voilà, terminé pour aujourd'hui. Un grand, grand merci à tous d'avoir écouté l'épisode jusqu'ici. J'espère que le format vous a plu. Si oui, dites-le moi avec 5 étoiles ou même un petit commentaire sur l'application iTunes. Et puis si iTunes, c'est pas votre truc, si Apple, vous avez pas envie d'en entendre parler, c'est pas grave. Vous inquiétez pas, il y a d'autres moyens de m'aider. Vous pouvez tout simplement en parler autour de vous. Prenez 2-3 amis et puis diffusez-leur le podcast. Moi, ça m'aide énormément et qui sait, ça les aidera aussi, peut-être. Quoi qu'il en soit, merci pour votre temps. N'hésitez pas à postuler aussi à la leçon du gratin si l'idée de passer sur le podcast vous intéresse. Donc à vous de jouer et bientôt pour une nouvelle leçon du gratin.